Bienvenue à tous sur l'émission Culture Flip, donc l'émission de la radio Studio Gakko, donc c'est l'émission de Liberté de Saint-Omer et radio étudiante, donc l'émission Culture Flip, l'émission qui vous cultive. Je suis en compagnie de Mathieu, bonsoir Mathieu.
Bonsoir à vous.
Et de Nicolas, fraîchement allé chez le coiffeur d'ailleurs, belle coupe.
Bonsoir, merci.
Donc les gars, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de jeux vidéo et de cinéma un peu autour de Marvel et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs on va commencer tout de suite avec les jeux vidéo. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a la sortie du nouveau Call of, qui soit approche, soit est déjà arrivé. Je sais pas si il est déjà sorti. Est-ce que vous êtes un peu intéressé
à... j'ai pas encore acheté, mais franchement ouais, pour jouer avec des potes, je trouve que c'est sympa.
Ok.
Bon moi personnellement non, je pense pas. Ça n'est pas trop le genre de jeu qui m'attire.
Ok, d'accord. Ça reste quand même une licence assez connue. Et donc, c'est toi, Nico, qui a une chronique à nous présenter là-dessus. Je Exactement. Propose qu'on lance ta chronique tout de suite, si t'es prêt.
Ça marche.
Allez, c'est parti.
Donc, ma chronique, elle porte sur les jeux vidéo. Donc, aujourd'hui, les jeux vidéo sont en perpétuelle évolution et ils profitent de la pointe des nouvelles technologies.
Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces nouvelles technologies
Alors, c'est des technologies au niveau de la motion capture, au niveau des PC, des moteurs de jeux qui font tourner les jeux. En fait, ils ont des outils beaucoup plus puissants qu'avant pour nous permettre d'avoir, de produire des jeux de meilleure qualité.
Ok, ça reste intéressant pour le consommateur, quoi.
Exactement. Et donc, aujourd'hui, ça attire près de 2 milliards de joueurs à travers le monde. Donc, les jeux, ils sont souvent associés à la violence, au comportement agressif, et comme à des jeux de tir impulsifs sans réflexion, comme Call of, par exemple. Donc, il pourrait en étonner plus d'un, par contre, qui les critiquerait. Parce que les jeux vidéo, ils permettent aujourd'hui de vivre une expérience unique, sont source d'interaction, notamment avec d'autres joueurs. Mais ils permettent aussi de voyager, non seulement à travers le monde, mais aussi à travers le temps. Donc nous verrons que le lien entre réalité et fiction qui permet de créer cette magie unique en ferait rougir le cinéma quasiment.
Entre réalité et fiction, t'entends quoi par là ?
Alors justement ce que je vais aborder après, donc entre ce que les jeux proposent et les faits réels qui existent derrière. Donc au niveau de l'histoire, tout ça.
Ok, d'accord.
Donc certains d'entre eux vous raconteront une histoire basée sur des faits historiques, justement c'est ce qu'on parlait, et parfois dans les moindres détails les plus réels. C'est le cas notamment de la licence Assassin's Creed, du studio canadien Ubisoft. Vous incarnez un personnage fictif à travers les âges, et lors de périodes historiques à travers lesquelles les faits sont racontés avec un certain souci du détail. À première vue, on pourrait penser que l'histoire racontée dans ces jeux ne sont que le fruit de l'imagination de développeurs et de Wikipédia. Mais pourtant, il n'en est rien, parce que le jeu, il est conçu à l'aide d'historiens qui reconstituent les faits et leur déroulement de la façon la plus réaliste possible. Donc le jeu Assassin's Creed Origins, par exemple, vous plonge au cœur de l'Égypte antique. Vous explorez ainsi cette terre d'autrefois et pouvez visiter chaque monument, tel qu'ils étaient selon les écrits. Vous pouvez décider de visiter l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh, comme la cité d'Alexandrie, soit en simple touriste ou bien en visite guidée par le jeu qui vous racontera l'histoire de ces lieux.
Visite guidée, il y a un mode visite guidée, ça reste intéressant ça.
Ouais, exactement. En fait, tu peux soit choisir de faire juste l'histoire principale, donc la campagne, ou alors à l'intérieur du jeu, pendant que tu fais l'histoire, tu peux, admettons, aller voir un monument et cliquer sur la visite guidée, tu te déplaces à l'intérieur des monuments.
Donc comme si on les visitait en vrai, en
Exactement.
Fait. Ça reste très intéressant. Ouais. Et il y a vraiment des informations vérifiées qui sont données
C'est tout est fait par les historiens.
Ah ok, d'accord. C'est super vraiment, intéressant ça.
C'est vrai, tout est vrai. Donc malheureusement, Google Maps n'existait pas à cette époque, et la reconstitution des lieux, c'est qu'une représentation basée sur les écrits et les traces des monuments qui sont encore existants aujourd'hui. Donc la saga est devenue une porte d'entrée à l'histoire pour énormément de joueurs. Elle suscite la curiosité et nous invite à nous intéresser à une époque que nous découvrons pleine de merveilles. Apprendre l'histoire donc, mais d'une manière plus ludique et bien plus efficace que celle traditionnelle enseignée. Donc bien que les développeurs essayent de reproduire les faits et les lieux de la façon la plus réaliste possible, cela ne reste qu'une base qui leur permet de vous raconter leur propre histoire, une source qu'ils se permettent de modifier avant de vous transporter dans un monde de fiction. Les développeurs Ubisoft, eux, vous signalent quand ils dépassent ces limites, mais ce n'est pas le cas de tous les développeurs. Par exemple, le dernier jeu d'Activision, Call of Duty, dont on parlait en début d'émission, fait polémique. Pour cause, le jeu retrace des conflits du Moyen-Orient, sans l'assumer pleinement. Pourtant, il met en scène des événements historiques tragiques et précis, mais sans jamais citer clairement et de manière explicite. Mais ce qui est réellement au cœur de cette polémique est le fait que le jeu met en scène le bombardement d'une autoroute lors de la guerre du Golfe par les États-Unis et attribue le crime à la Russie, justement. Ce n'est pas la première fois que ce genre de problème survient, bien que l'histoire réelle ne reste qu'une toile de fond pour permettre à celle imaginaire de se développer. il reste tout de même dangereux de jouer avec en la modifiant de façon abusive et de trop la déformer. Car modifier l'histoire, c'est prendre des risques, évidemment. Les jeux vidéo ne se limitent donc pas qu'à de simples récits imaginaires, mais pour certains sont de réelles fictions historiques. Mais à prendre avec des pincettes tout de même, quand je dis fiction historique.
Et d'ailleurs, j'ai une petite question. T'as pas parlé des jeux Uncharted, mais pour moi, je pense que ça fait peut-être partie de ta catégorie, si je me trompe pas. Ça reste des jeux qui parlent de l'histoire, et donc avec certaines histoires autour de trésors assez connus quand même. Ouais.
Et avec des personnes qui ont réellement existé, des pirates qui ont vraiment existé. Ça parle aussi de Marco Polo, et en fait, le jeu, il retrace tout ce qu'on sait de Marco Polo. Eh bien, le jeu retrace ses voyages et les endroits flous dans l'histoire où on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait. Et bien, du coup, il se permet de raconter une histoire, sa propre histoire.
Ouais, donc ça reste intéressant pour les développeurs. Ils peuvent partir là où ils veulent avec ces flous dans l'histoire.
Exactement,
en fait.
Avec des faits réels et des faits historiques.
Mais donc, petite question, tu parles des jeux Ubisoft, Assassin's Creed. T'en as peut-être un préféré, un petit...
Mon préféré, justement, c'est Origins. C'est pour ça que j'en ai parlé d'ailleurs dans ma chronique, c'est parce que j'ai joué à quasiment tous les jeux Assassin's Creed et franchement c'est celui qui m'a plus plu parce qu'il retrace vraiment les faits, je trouve ça pas
bon
mal.
Je pense qu'on on va éviter d'en parler, ça va fâcher, puisque moi personnellement mon préféré ça reste les vieux avec l'Italie, la Renaissance, Ezio.
C'est pas mal aussi, d'accord.
Je trouve ça un peu plus intéressant, mais ça reste quand même un jeu super beau. Et toi Mathieu, est-ce que t'as un avis un petit peu sur...
Par rapport à Assassin's Creed, en fait j'ai joué très peu, donc je joue très peu aux jeux vidéo, mais j'y en ai joué à deux, trois particulièrement et franchement,
t'aimes bien ?
C'est spectaculaire, c'est beau, j'aime bien. Voilà.
T'aimes bien.
Ok, et t'es un petit peu plus quoi toi, série, cinéma ?
Moi je suis plus dans le cinéma. Ouais.
Ok, et je sais pas si tu sais, mais enfin cinéma, je pense que tu connais Marvel.
Je suis fan.
Ils vont sortir un jeu vidéo sur PS4 Marvel Avengers ?
Oui, j'ai vu ça, c'est sûr, je vais pas vous mentir. Il sera dans ma collection.
Tu vas quand même craquer sur
ce jeu. Oui, je vais craquer.
Ouais. Ah, on est d'accord. Et toi, Nicolas, t'en penses quoi de ce jeu-là ?
Je veux l'acheter, je vais le précommander, c'est sûr et certain. Il sort en début d'année prochaine en plus.
Début d'année prochaine ? J'avais cru comprendre mai, enfin, ok, d'accord.
Ouais, voilà.
Bon, je pense que je vais débourser aussi pour ce petit jeu. Mais du coup, puisqu'on parle de jeux vidéo et de Marvel, on passe directement sur ta chronique, Mathieu, si tu te sens prêt.
T'avais
un sujet intéressant à propos de Marvel, de l'actualité, etc. Donc je te laisse commencer.
Moi je vais vous parler du cinéma et notamment de Marvel. Donc en fait je vais commencer par vous parler de Stan Lee. Donc je pense que vous connaissez.
Ah oui.
Ouais quand même.
Donc il tient sa popularité de la création de nombreux super-héros tels que Hulk, Iron Man, Spider-Man et de nombreux autres. Et il était aussi très connu pour avoir fait de nombreux caméos dans la plupart, même tous les films...
You okay?
Are you Tony Stank?
Yes, this is Tony Stank. You're in the right place. Thank you for that. Never dropping that, by the way. Table for one, Mr. Stank, please by the bathroom.
Donc pour préciser, pour ceux qui ne sont pas forcément ultra fans, la remarque qu'on a souvent sur les films Marvel, c'est le vieux monsieur qui apparaît tout le temps. Donc c'est lui, c'est Stan Lee.
Avec la moustache,
c'est
les
ça.
Lunettes. Donc voilà, et donc du coup je vous parle de lui, car en fait il y a un an, le 12 novembre 2018, il nous a malheureusement quittés, à l'âge de 95 ans, donc vraiment un bel âge. Et il a permis en fait à l'industrie des super-héros de se développer et d'arriver où elle en est actuellement. Donc il utilisait en fait ses comics et ses personnages pour dénoncer et créer la polémique chez ses lecteurs.
Comme par exemple, c'est par exemple avec Black Panther,
oui,
avec
voilà.
Le premier super-héros noir de mémoire.
Exactement, Black Panther, premier super-héros noir, ou aussi avec Bruce Banner et son accident qui l'a transformé en Hulk à cause de l'énergie nucléaire.
Et donc ce serait par rapport au nucléaire, ça ?
L'énergie
jamais fait
nucléaire.
Le lien, c'est... Ouais. Ok, d'accord.
Et il y a aussi, plus dans le détail, en fait, les X-Men. Donc il accuse la ségrégation et l'exclusion. Parce que c'est un groupe de jeunes... de tout type différent qui sont groupés.
Limite, je trouve ça plus évident que Hulk, du point de vue polémique, je trouve.
Donc, toutes ces histoires créées par Stan Lee et par de nombreux autres auteurs, tels que Jack Kirby ou Joe Simon, donc ils ont permis aux personnes de devenir meilleures. C'est tout ce que j'ai à dire sur Stan Lee, donc c'est C'est juste
ça
pour
reste
finir.
Un grand monsieur, je pense.
Exactement, c'est ce que j'allais dire.
J'ai une petite question. Alors, c'est un grand mystère quand même, ça, autour des films Marvel. Est-ce qu'on sait s'il a tourné des petites scènes d'avance, des caméos pour les films à venir?
Alors, oui. Donc, pas énormément. Donc, on va bientôt ne plus le voir, malheureusement. Mais peut-être, espérons le voir sur des affiches ou juste d'avoir encore une touche de Stan Lee dans les films.
Peut-être un petit hommage dans certains de tes films.
Oui, voilà.
Comme je pense notamment à Spider-Man, ça reste une de ses créations majeures. J'espère qu'il y aura encore des petits clins d'œil à Stan Lee quand même.
Nous l'espérons tous, je pense.
J'aimerais bien qu'il fasse, tu sais, comme dans Star Wars, il y a un acteur qui était mort. Du coup, ils l'ont refait avec des effets spéciaux. Ils ont recréé le personnage. T'as l'impression que c'est lui réellement.
Ça peut être intéressant si on peut recréer Stan Lee, mais après ça reste une question aussi de respect. Est-ce qu'on réutilise l'image d'un défunt? Ça reste à débat quand même.
Exactement.
Et donc du coup t'as d'autres sujets, il me semble, à nous parler.
En fait, donc on va rester dans le thème de Marvel. Et en fait, donc il y a eu le premier film de l'univers cinématographique de Marvel, donc Iron Man, réalisé par Jon Favreau, qui a été un succès mondial. Et suite à ce succès, Marvel Studios a été racheté par Disney, comme je pense que vous le savez. Depuis peu, il y a de nombreux débats sur l'univers cinématographique de Marvel, notamment face aux grands réalisateurs du cinéma tels que Martin Scorsese et Francis Ford Coppola. Parce qu'en fait, ils jugent que les films de super-héros ne sont pas du cinéma et qu'ils se comparent plus à des parcs d'attractions. Donc pour intégrer cette chronique, j'ai réalisé un micro-trottoir.
Moi, je pense qu'il y a toute forme de film et de cinéma. Donc, il ne faut pas rester sectaire sur un domaine en particulier. Et que pour moi, les films Marvel, c'est du cinéma. C'est du grand spectacle, mais ça reste du cinéma.
Déjà, ce sont d'une autre génération. C'est des personnes qui ont connu un autre genre de cinéma. Et je pourrais dire qu'il y a plusieurs genres de cinéma. Et là, les films Marvel, c'est plutôt du divertissement, avec quand même un scénario bien fichu. Après, moi je peux pas, je suis pas esthète en cinéma, mais je trouve qu'ils ont un petit peu tort. C'est peut-être de la jalousie vu leur vieux âge. En tout cas, ils ont fait des très bons films, mais après il faut vivre avec son temps et maintenant le cinéma a changé.
Donc suite à ce micro-trottoir, j'aimerais savoir votre avis, Flavien.
Ok, donc t'inquiète, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci.
Ok, ça va.
Quand même, on reste potes quand même en dehors de la radio.
C'est vrai.
Donc moi personnellement, je suis assez partagé. Les films du MCU sont quand même MCU, donc les films Marvel sont quand même assez connus, assez populaires. Ça reste du bon divertissement, mais je suis d'accord qu'il y a peut-être pas le même côté qualité qu'un film de Martin Scorsese ou Coppola, qui sont vraiment des films d'auteur travaillés avec des effets de caméra, etc. Il y en a dans le cinéma de Marvel comme Doctor Strange ou Black Panther, mais on va pas se mentir, on va prendre un Captain America 1 ou un Thor 2, ça reste pas ouf, quoi.
D'accord, merci pour cet avis construit. Que toi, Nicolas, quel est ton avis ?
Moi, je suis assez d'accord avec Flavien. Je suis d'accord que ça vaut pas un bon film d'auteur, mais on voit que c'est plus côté spectacle. J'aime quand même beaucoup ces films-là. Je reste un
grand spectacle. Moi aussi, je suis fan, mais ça reste du grand spectacle. C'est pas forcément un film de qualité.
Exactement. D'accord, merci pour votre avis. On a aussi Francis Ford Coppola qui a prononcé que les films de super-héros sont méprisables.
Ça, je suis pas d'accord. Par contre, ça.
La même.
Pareil.
Il faut tout pour faire un monde. Je suis pas d'accord.
Exactement. Et du coup, il y a eu quelques réponses, notamment l'actrice Natalie Portman, donc, qui interprète le rôle de Jane Foster dans Thor et Avengers, donc, a répondu au réalisateur du Parrain en disant qu'il y a de la place pour chaque type de cinéma et qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de l'art.
Bien dit.
Ah, c'est un bon avis, ça.
Après, ce n'est pas la seule, car il y a aussi James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, qui lui aussi a répondu en déclarant que certains films de super-héros sont horribles, d'autres sont beaux, comme les westerns et les films de gangsters. Tout le monde ne sera pas capable de les apprécier, même certains génies, et ce n'est pas grave.
Bien
construit. Il avait aussi répondu à Martin Scorsese, sur Twitter, en disant qu'il est déçu que l'un de ses cinéastes préférés juge ses films avant même de les avoir vus. Et aussi l'acteur emblématique d'Iron Man, Robert Downey Jr., que tout le monde connaît, lui a répondu lors d'une interview que les films de super-héros sont bien du cinéma, car les films passent au cinéma, tout simplement.
Ça reste utile. Et d'ailleurs, en parlant de lui, Je pense que je peux faire un lien avec ta dernière partie d'ailleurs en parlant de Robert Downey Jr. On sait qu'il va peut-être se présenter aux Oscars.
Oui.
T'es plus quelle équipe, toi, Robert Downey Jr. ou Joaquin Phoenix pour son travail sur le Joker?
Alors clairement, j'ai une passion, je suis fan de l'univers Marvel, mais le film Joker était excellent pour ma part. Je trouve qu'il était, oui, bah, comme vous l'avez dit précédemment, ce sont des films plus spectaculaires que philosophiques comme le Joker. Donc pour moi, Joaquin Phoenix mériterait plus un Oscar que Robert Downey Jr. Et à vous deux, votre avis?
Moi, je suis d'accord qu'il mérite peut-être un Oscar, Joaquin Phoenix, mais reste quand même que pendant plus de 10 ans, Robert Downey Jr., il nous a fait un peu rêver quand même avec son rôle d'Iron Man. Je pense qu'il mériterait une petite récompense. Quoi.
C'est grâce à lui que Marvel en est là où ils
oui,
sont.
Oui,
carrément.
Clairement, lui, bah, le premier Iron Man, c'était lui.
C'est lui qui a tout lancé.
C'est le super-héros du MCU.
Ouais, totalement. C'est pour moi le ciment du MCU. D'ailleurs, j'ai des gros doutes sur la suite du MCU sans Iron Man. Ça va être compliqué, je pense.
Compliqué.
Je suis totalement d'accord, ça, on n'ose pas. Donc du coup, bah, dans un autre registre de films de super-héros, comme vous m'avez lancé précédemment, on va parler plutôt de super-vilain, pour ce cas-là. Le film du Joker, j'espère vous avez vu, a explosé le box-office en un week-end, avec ses 93 millions et 500 000 entrées. Donc ce personnage issu de comics deviendra-t-il la figure de la contestation urbaine dans le monde ? C'est la question que tout le monde se pose, car elle a notamment été utilisée dans les pays tels que le Liban, le Chili et Hong Kong, lors des manifestations. Alors pour le moment, le personnage du Joker, l'ennemi juré du super-héros Batman, n'est pas le masque le plus représenté lors des manifestations, car il s'agit de celui de V for Vendetta. On peut remarquer qu'il y a différents types de débats sur les super-héros et leurs ennemis, du coup. Donc il y a le débat sur les super-héros et le cinéma, qui mène à une division et une création de deux parties en plein cœur de l'univers cinématographique. D'un côté, les grands cinéastes très célèbres qui critiquent, et d'un autre, les acteurs et réalisateurs de ces films, ainsi que leurs fans qui défendent ce qu'ils aiment, tout en restant très correct avec les autres parties. Pour ma part, en tant que grand fan de films de super-héros, et notamment des films Marvel, mon choix est vite fait. Je suis en total désaccord avec les grands réalisateurs sur les films Marvel, où ils prononcent que ce ne sont pas du cinéma...
Ok, très bien. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses du Joker et des manifestations un petit peu hein?
Bah,
tu penses que c'est légitime d'utiliser l'image d'un personnage public comme lui?
En fait, je me dis, je sais pas s'il l'utilise par rapport au film, en fait, ou juste par rapport au personnage, mais comme dans le film, on peut voir que le personnage du Joker est le commencement d'une énorme révolte, d'une énorme manifestation qui vise à faire bouger les choses au niveau du gouvernement. Donc peut-être... qu'ils espèrent que grâce au Joker, ils vont changer les choses et améliorer leurs conditions de vie.
Okay.
C'est un symbole, oui, voilà.
Bon, du coup, moi, j'avais envie de vous parler d'un... Ah, on me signale à l'oreillette qu'il y a un petit problème. Alors, attendez. Ok, alors, c'est un gros problème. En fait, on a oublié de payer la facture d'EDF pour le studio. Du coup, on va peut-être avoir un petit problème d'électricité d'ici peu de temps. Peut-être qu'il n'y aura plus de micro, plus de lumière, plus rien. Donc du coup, j'ai tout de suite lancé la conclusion de cette émission. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie Mathieu pour ta chronique. Merci à Nicolas. Et puis merci à cette magnifique coupe de cheveux. Et j'oublie pas surtout de remercier aussi notre cher Galad, notre petit technicien qui s'occupe de toute la tenue de l'émission. Tu peux taper des mains, on va peut-être t'entendre. Voilà, il est là, il est avec nous depuis le début. Donc vous pouvez retrouver l'émission donc, sur studiogaco.fr ainsi que de multitudes émissions. On se dit à la prochaine, ciao ciao.
Salut.